Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour encore un épisode solo. Alors avec un petit peu de retard, mais en fait avant d'enchaîner, je vais me présenter Lila Louise Maréchaux. Je suis ancienne avocate, je suis à la tête donc de ce podcast Fleur d'avocat, qui alterne entre les interviews d'avocats et d'avocats bien dans leur robe. Et maintenant, ces épisodes solo où je partage avec vous des réflexions sur la profession d'avocat, principalement, tant sur des aspects de développement que de RH. Et j'ai aussi une entreprise qui s'appelle Iris et Témis, qui est un site de diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocat, où on travaille sur une présentation hyper qualitative des offres et des équipes qui recrutent pour vous permettre de... pour répondre en fait à toutes les questions que se posent les candidats et augmenter l'attractivité de ces offres. Vous pouvez aussi retrouver dessus des témoignages de collaborateurs ou d'anciens collaborateurs ou de stagiaires ou d'anciens stagiaires qui travaillent ou qui ont travaillé dans cette équipe, ce qui peut vous donner une petite idée de du tempérament et du mode de management de la personne qui recrute, parce que je sais que ça fait partie des choses qui vous préoccupent. Voilà. Alors, passons au cœur du sujet. Oui, je vous disais un petit peu de retard, et je crois que pour la première fois en 5 ans, j'ai loupé une sortie du podcast, un début d'année 2024 qui est tel qu'il est, et j'ai un petit peu du mal à me réorganiser. Vous savez, c'est un peu comme le sport, vous avez une routine sportive hyper carrée. Moi, par exemple, il y a une époque où j'allais au yoga 3 fois par semaine et je ne loupais pas, voire 4 fois par semaine. Et je ne loupais pas une seule séance. Et ça a duré, genre, je pense, bien 2 ans. Et il y a eu le Covid qui s'est installé là-dessus. Et le fait d'avoir déménagé, passé de Covid chez mes parents, changé voilà, j'ai complètement perdu ma routine et ensuite, je ne l'ai pas récupérée. Et je suis en train de la récupérer aujourd'hui. J'avais dit dans le précédent épisode que parmi mes bonnes résolutions, il y avait le fait de me remettre au sport. J'ai pas encore la discipline que je voudrais, mais j'ai repris mes 2-3 sessions de sport par semaine. Donc, je suis en bonne voie. Bref. Et c'est exactement la même chose avec le podcast. Là, le fait d'avoir cassé la routine, j'avais une organisation militaire pour sortir un épisode par semaine, ce qui demande quand même une grosse logistique. Et en fait, j'ai baissé la garde tout simplement en me disant, ben maintenant, je vais faire qu'une interview une semaine sur deux. Et le résultat, c'est un podcast solo, c'est vachement plus facile à caler dans mon organisation et tout. Et puis en fait, oui, c'est plus facile, mais ça reste un peu un truc à organiser et à prévoir à l'avance. Bref, donc, pour la première fois en 5 ans et quelques de podcast, j'ai zappé une sortie et qu'on ne m'y reprenne pas. Voilà, en tout cas, je reviens avec un épisode solo que je ne partage pas avec vous, avec la cheminée dans mon dos, malheureusement, parce que je voulais pas monopoliser le salon. Mais je me suis confortablement installée dans mon bureau avec une petite bougie parchemée qui crépite et une tisane et une bouillotte. Et donc, voilà, bienvenue avec mamie, hein, on va faire ce podcast ensemble, c'est vraiment un grand plaisir. Vraiment, vraiment un grand plaisir. Les actualités, je vous avais dit qu'on onboardait dans Iris et Témis une assistante qui commence avec nous, et aussi une rédactrice. Donc, j'ai l'impression que sur cette première mission, Vanessa, notre assistante, a vachement bien pris ses marques et tout. Donc, je vais pouvoir, je pense, lui déléguer d'autres choses, ce qui est super. Côté rédaction, ça se met encore en place. Donc, j'ai pas encore trop de visibilité. Mais j'espère pouvoir me libérer rapidement du temps de ce point de vue-là pour ensuite voilà, pouvoir pleinement me dédier à d'autres choses. Voilà, donc là je vous parle d'Iris et Témis, hein, bien sûr, parce que comme je vous l'ai expliqué, je baisse drastiquement mon temps de conseil et de formation avec l'entreprise qui s'appelle Fleur d'Avocat, mais en fait les gens viennent pour moi pour me dédier beaucoup plus à Iris et Témis et voilà, et accélérer cette croissance qui vient sanctionner nos bons premiers résultats. Le dernier épisode solo était sur la collaboration libérale. C'était un long épisode de réflexion sur ce contrat. Et il a fait beaucoup, 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 beaucoup réagir en commentaire sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai aussi eu le plaisir de recevoir des messages élaborés de la part de certains d'entre vous. Je devrais dire certaines parce que je n'ai reçu que des messages de femmes et pourtant je sais que je suis aussi écoutée par des hommes. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu le plaisir de recevoir des messages d'avocates qui ont partagé avec moi leurs réflexions et je me suis dit que j'allais les partager aussi avec vous et puis répondre à certains des sujets qui sont qu'elles soulèvent. Parce que voilà, comme ça, on accumule, enfin, je ne sais pas si accumuler est le bon mot, mais voilà, c'est une manière de rendre accessible à tous les dialogues qui se créent autour des épisodes du podcast par le biais de ces interventions solo. Donc, alors déjà, j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai une collaboratrice qui m'a dit qu'elle avait envoyé l'épisode à son collaborant pour l'inviter à l'écouter. Voilà, et j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que, voilà, encore une fois, je sais que je peux avoir une image de syndicaliste gaucho, pro-collab, hyper orientée. Et alors que j'ai. Enfin, oh oui, je suis plutôt de gauche et oui, j'ai un côté syndicaliste. Mais j'ai pas l'impression d'être de façon hyper tranchée pro-collab et voilà, peut-être que c'est des prises de position qui sont plus régulières que celles pour les collaborants, mais y a plein de situations dans lesquelles j'échange avec des managers et dans lesquelles bah, voilà, on réfléchit ensemble et franchement en tout cas tel qu'ils me présentent certaines choses, je suis plutôt d'accord avec eux sur un bon nombre de choses. J'ai pas d'exemple très concret à partager avec vous, mais voilà, en tout cas je suis pas systématiquement à prendre le parti des collaborateurs. Donc d'une certaine façon je me bats un peu contre cette idée et je le cœur de mon travail c'est quand même essayer de créer du... Enfin, je ne sais pas si c'est le cœur de mon travail, mais en tout cas, dans mon esprit, mon travail vise plutôt à créer du dialogue et voilà, et à aider les différentes générations et les différentes... Ça va au-delà de la génération, mais les différentes personnes au sein de cette profession à se parler et à se comprendre et à comprendre les enjeux et les contextes des uns et des autres pour pouvoir voilà, travailler plus intelligemment ensemble. Et voilà, donc ça m'a fait trop plaisir que cette collaboratrice me dise qu'elle allait envoyer l'épisode à son collaborant. Parce que je suis contente si ça permet de créer du dialogue et encore plus si, à l'issue de cette écoute respective, l'un et l'autre ont une discussion qui les amène en fait à préciser chacun de leur côté, finalement, comment est-ce qu'ils voient les choses et ça crée une discussion de laquelle il aboutisse plus de clarté sur cette collaboration et qu'est-ce qui en est attendu. Et donc, ce qui me semble être une manière vertueuse de travailler ensemble est probablement quelque chose de constructif pour cette relation de travail. Donc voilà, trop contente. On a aussi donc une autre ancienne collaboratrice qui s'est installée récemment et qui m'a écrit alors plein de choses dans son message. Elle dit pour moi on a construit un monstre et voilà, et elle dit je pense que voilà, et ce contrat est parti d'une bonne intention, mais en fait on a construit un monstre et on ferait mieux de forcer à faire un choix clair entre les deux contrats qui sont offerts par le droit commun, à savoir d'une part la sous-traitance et d'autre part la collaboration salariée, chacun venant avec ses avantages et ses inconvénients, mais au moins avec un choix très clair. J'avoue que c'est quelque chose avec lequel je suis assez d'accord. Je rejoins, et c'est, je ne sais plus si j'en ai parlé dans mon dernier épisode, mais je rejoins une critique qui est faite par aussi beaucoup de collaborants hein, qui disent, et de cabinets qui d'une certaine manière, critique la cédéisation du contrat de collaboration libérale avec de plus en plus la question des congés, la question des congés payés, des vacances, la question du congé maternité, la question de la rétrocession, les rétrocessions qui augmentent beaucoup. Et qui dit rétrocession qui augmente, dit aussi d'une certaine façon accroissement des exigences des cabinets envers les collaborateurs sur la rentabilité. Et donc, le temps, la disponibilité, tout ça, tout ça. Effectivement, je rejoins ces différentes critiques sur le fait que, peut-être que c'est contre-productif, en fait, tous ces mécanismes de protection qui sont intégrés dans un contrat de collaboration libérale, mais sans aller au bout de la logique, et qu'il serait préférable et judicieux et plus stratégique de forcer à faire un vrai, vrai choix entre de la vraie sous-traitance et de la vraie collaboration salariée. D'ailleurs, ce que j'observe beaucoup aujourd'hui, c'est des collaborateurs libéraux qui s'installent et en fait cherchent à faire de la sous-traitance avec le cabinet avec lequel ils se sont installés. Et en fait, ils ont l'impression, en s'installant, mais en faisant ce qui relève de la sous-traitance plutôt que de la collaboration salariée, en indiquant de façon plus que c'est une manière d'indiquer de façon plus claire à leurs collaborants qu'aujourd'hui, ils sont plus de façon privilégiée attachés à ce cabinet. Et qu'ils développent leur clientèle. Ce que je trouve être une aberration, parce qu'en principe, le contrat de collaboration libérale a pour principe le fait que, justement, c'est... vous collaborez avec un cabinet, mais vous développez votre clientèle, et ça fait partie intégrante du contrat. Et voilà, on ne peut que s'étonner, ou je ne sais pas si s'étonner, mais en tout cas constater qu'aujourd'hui, finalement, l'esprit de cette collaboration libérale, certains collaborateurs, pour le retrouver, finalement, préfèrent sortir de la collaboration libérale et plutôt s'installer dans une relation de sous-traitance avec les cabinets, ce qui pourtant n'est pas à leur avantage, parce que rappelons que de la sous-traitance stricto sensu et offre moins de protection qu'une collaboration libérale. Donc voilà, je crois d'ailleurs, et ce serait intéressant qu'on fasse un webinaire avec lui, Noyeri Setemis, qu'à Lyon, je dis avec lui parce que j'ai en tête une personne qui a notamment conduit cette initiative qui s'appelle Hubert Deboise, que j'ai eu le plaisir d'interviewer sur ce podcast. D'ailleurs, j'ai plus le numéro de l'épisode, mais vous le retrouvez facilement si vous tapez son nom dans Spotify ou sur Google, tout simplement. Hubert Deboise, qui est membre du Conseil de l'Ordre, et en tout cas à Lyon, parce que ce n'est pas une initiative qui lui est propre, il a travaillé sur le sujet, mais voilà. Ils proposent un contrat qui est une sorte de contrat de sous-traitance un peu adapté, justement pour couvrir ces sortes de situations où il y a encore beaucoup un partenariat très étroit entre un cabinet et un avocat, mais ce n'est pas une collaboration libérale. Mais c'est quand même pas non plus juste quelque chose de complètement sans lien ou voilà. Donc voilà, à creuser. Mais je voulais juste apporter cette pierre à la réflexion. Cette personne qui m'a écrit, donc toujours dans les BEB, dans le BEB feedback, dit. Et j'étais partiellement d'accord avec elle. Elle parle de la forte dépendance économique qui se crée nécessairement entre un cabinet d'avocats et son collaborateur, qui en réalité n'est pas compensée par la protection qui est offerte par le droit du travail. Donc, ce qu'elle veut dire par là, c'est que globalement, tous les cabinets, en tout cas toutes les situations, parce que ce n'est pas nécessairement des choses qui sont imposées par un cabinet. C'est vrai que, et je ne l'ai peut-être pas assez mis en exergue dans mon précédent échange, mais c'est vrai qu'il y a aussi des situations où le collaborateur, en réalité, aurait de l'espace pour développer, mais ne s'accapare pas cet espace. C'est-à-dire que lui-même ne prend pas cet espace de développement que le cabinet lui laisse ou lui laisserait si il adoptait cette posture de juste de développer son activité. Et donc, il y a, on va dire, aussi des situations de d'exclusivité ou de quasi-exclusivité qui en fait sont pas imposées par le cabinet mais le sont sont suscitées par la non-proactivité du collaborateur, le positionnement du collaborateur par rapport à cette attitude entrepreneuriale. Et je reboucle avec, par contre, quelque chose que j'ai dit, qui est que je pense sincèrement qu'il y a plein de collaborateurs pour qui le développement du perso, en fait, c'est pas leur sujet, et c'est pas un truc dont ils ont, enfin, sur lequel ils ont envie de travailler, en tout cas pas à une certaine période de leur vie. Et donc, elle dit, voilà, dans ces situations, il y a une forte dépendance économique qui se crée. Et qui voilà, non seulement est contraire au contrat de déontologie, mais qui en plus, enfin voilà, en l'occurrence, n'est pas compensé par la protection offerte par le droit du travail. Donc, si il y a une difficulté entre le cabinet et le collaborateur, eh bien, mais notamment si le cabinet décide de mettre fin à cette relation où il y a eu de l'exclusivité, enfin en tout cas une grande dépendance, notamment économique, qui s'est créée. Ben voilà, le collaborateur, il a ses 3 mois de rétrocession d'honoraires et puis ensuite c'est tout quoi. Ensuite, il faut qu'il se retrouve une collaboration ailleurs ou qu'il développe sa propre activité tout seul. Je ne sais pas si il y a un équivalent à de la rupture brutale de relations commerciales qui peut s'apprécier entre un avocat, entre un cabinet d'avocats et son collaborateur. C'est une bonne question. Si vous avez la réponse, voilà, je suis preneuse. Là-dessus, en tout cas, sur cette notion de forte dépendance économique qui se crée, j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans toutes les situations où vous avez un collaborateur qui est payé un minimum local ou un minimum UJA, et globalement, si vous, enfin, ou même un minimum UJA à Paris. Et globalement, le minimum local dans un barreau de province et même le minimum local et même le minimum UJA à Paris, il ne vous permet pas de vous constituer rapidement votre propre assurance chômage. C'est-à-dire que, voilà, très probablement, si vous avez, aujourd'hui, à Paris, c'est 4 300 euros la rétrocession d'honoraires d'une première année. 4 000, ouais, c'est 4 300, je crois. 4 300 ou 4 500, je sais plus. Non, 4 300. Bref. Clairement, une fois que vous en avez provisionné 45%, 45 à 50%, en ayant une approche plutôt conservatrice, on va dire, précaution, et il vous reste un peu plus de 2 000 euros. Avec ces 2 000 euros, une fois que vous avez votre logement, il vous reste pas non plus énormément pour le reste. Et donc, vous ne pouvez pas épargner, enfin, vous constituer une épargne de précaution. Enfin, je veux dire, ça prend un peu de temps, quoi. Et surtout, une épargne de précaution, on va dire, un peu conséquente. Qui est recommandé quand on est libéral ou entrepreneur, c'est bien 6 mois de charge fixe. Donc voilà. Donc globalement, c'est votre propre chômage qui serait constitué de cette épargne de précaution. Il vous met un peu de temps à être constitué. Donc oui, dans ces cas-là, à moins de développer beaucoup de persos, et bien évidemment, c'est la même chose en province, avant de développer beaucoup de persos, globalement, vous êtes en forte dépendance économique. Je dirais pas la même chose si on est dans le cas de ces collaborations libérales qui sont très généreusement rémunérées. Si vous commencez à 100 000 euros annuels en première année, globalement, vous avez de quoi à la fois vous loger, vous nourrir très rapidement vous constituer une épargne de précaution qui vous permet d'avoir de quoi voir venir si jamais le cabinet met brutalement fin à votre relation de travail. Et globalement, en fait, le piège dans ces cas-là, c'est justement de vous mettre dans une cage dorée, c'est-à-dire comme le cabinet vous rétrocède quelque chose de très important. Et pour 1 000 raisons qui tiennent aussi à ce que vous faites dans le cabinet, au rythme qui sera exigé de vous, etc., etc., on va en reparler. Il est probable que vous adoptiez encore plus une posture, entre guillemets, passive par rapport à la question du développement du perso et que vous, du coup, vous soyez en dépendance, enfin, je veux dire, du coup, que vous ayez vraiment un seul client, quoi. Et OK, soit. Mais là, pour le coup, votre bonne intelligence d'entrepreneur et votre bonne intelligence financière, si vous êtes dans cette situation, c'est par contre de ne pas tomber dans le piège de très rapidement vous mettre sur un niveau sur un style de vie qui soit très coûteux et qui vous rendent en fait dépendant financièrement parlant, alors que le cabinet, dans l'absolu, avec la rétrocession du cabinet, vous avez les moyens d'acquérir une forme d'indépendance financière, que ce soit parce que vous pouvez vous constituer une épargne de précaution bien solide, ou que ce soit parce que ça vous permet aussi de réinvestir. Dans d'autres actifs qui vous permettent de vous constituer un patrimoine et de pas dépendre économiquement de votre cabinet, en tout cas assez rapidement, quoi. Donc je mettrai une nuance là-dessus par rapport à cette notion de dépendance économique. Et voilà. Donc même si, enfin, globalement, oui, si vous travaillez pour un seul client, mais que ce client vous paye très très bien. En fait, du coup, votre responsabilité sur cette rémunération que vous touchez, sur ce chiffre d'affaires que vous touchez, c'est d'anticiper le fait que ce client peut partir et que du coup, vous pouvez avoir besoin d'un matelas solide pour vous reconstituer le temps d'aller trouver d'autres clients ou un autre gros client pour vous rémunérer. Voilà. L'autre chose, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça fait écho à une discussion que j'ai eue récemment avec une collaborante. Elle dit, c'est aussi un système de protection qui peut se retourner contre le collaborateur. Et elle parlait notamment du congé maternité, qui en fait coûte beaucoup d'argent au cabinet. Qui coûte, enfin voilà, qui c'est pas juste qu'il y a une désorganisation qui se fait, mais c'est aussi que pour le coup, pendant ce temps-là, le cabinet continue à rémunérer son collaborateur et OK, il y a des indemnités, entre guillemets, il est compensé en partie, mais en partie, et pas sur le tout. Et donc, il y a encore une partie de la rémunération du collaborateur qui sort de la poche du cabinet. Et donc, en fait, ça coûte de l'argent au cabinet, alors que ce qu'elle me dit, mais je ne suis pas une experte du sujet, c'est que en entreprise classique, au-delà de l'aspect organisationnel, c'est-à-dire... Mais voilà, le coût de la désorganisation, d'avoir quelqu'un qui est absent pendant plusieurs mois, de devoir le remplacer avec un contrat temporaire ou de rééquilibrer sur les autres membres de l'équipe. Mais voilà, tout ça, ça a un coût, ne serait-ce que caché. Au-delà de ce coût-là, le coût de la rémunération de la personne qui est en congé ne pèse pas sur l'entreprise. Et ça, c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est vrai ça, mais en tout cas, pour en revenir sur le mécanisme que je connais, qui est celui en cabinet d'avocat, c'est vrai que ça crée de l'amertume, mais ça, je veux dire, clairement, ça crée facilement des tensions, puisque ça crée une tension, ça crée une pression sur le cabinet qui, il y a un heureux événement qui arrive, mais du coup, c'est un heureux événement qui s'accompagne d'une pression additionnelle en termes de financement, quoi, tout simplement. Et on ne peut pas faire comme si c'était complètement neutre. Donc voilà, de ce point de vue-là, un système de protection probablement assez perfectible pour que ce genre de situation se passe sans heurts. Voilà, et l'autre chose, elle disait, derrière ce contrat bancal, on dit oui, il n'y a pas de protection, mais d'un autre côté, il y a de la formation, etc., etc. Et elle dit, et je la rejoins complètement là-dessus, que la formation, c'est pas propre au contrat de collaboration libérale, c'est juste propre à n'importe quelle expérience professionnelle. N'importe quelle expérience professionnelle, qu'on soit freelance, qu'on soit salarié, et à tout niveau d'expérience, nous forme. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est grâce aux dossiers sur lesquels on travaille et aux missions qu'on gère et aux expériences, à nos expériences professionnelles qu'on peut se former. Voilà, donc ça, c'est un autre retour. Encore un retour, un troisième, et puis ensuite j'arrête, avec une collaboratrice qui nous dit, juste un peu perdue sur l'interrogation relative au temps de travail du collaborateur, C'est peut-être pas très simple à anticiper dans la mesure où le nombre de dossiers rentrés par le collaborant et leur technicité est fluctuante. Et oui et non, parce que en fait, en tout cas, dans n'importe quelle autre entreprise qu'un cabinet d'avocats, bah oui, en fait, quand on recrute quelqu'un, on fait un pari sur l'avenir, on fait le pari sur l'avenir qu'on aura de quoi lui l'alimenter sur un mi-temps, un temps plein, en tout cas sur une certaine, sur un certain périmètre de travail. Qui se calcule bah, du coup ou en jour ou en temps ou en heure de travail, mais bon voilà. Et en fait, c'est un pari et les entreprises, et pas que les cabinets d'avocats, connaissent des formes de fluctuations. Alors elles ont plus ou moins, en fonction de leur ancienneté, en fonction de plein de choses, la capacité d'anticiper justement cette fluctuation d'affaires. Anticiper que tel et tel mois sont plutôt des mois creux, mais que tel et tel mois sont plutôt des mois avec beaucoup d'activités, etc. Ça, c'est quand on a beaucoup de recul. Mais bon, dans l'absolu, je pense que je suis tout entrepreneur et toute entreprise, voilà, rejoindra ce côté que chaque nouveau dossier est une sorte de miracle, mais que ben voilà, l'incertitude sur l'avenir, elle est toujours présente, quoi. Donc quand on recrute en faisant un pari que l'activité va se maintenir, va permettre d'alimenter ce collaborateur et que de toute façon, bah, s'il y a un creux, il sera pas pérenne et qu'il servira à aller chercher d'autres clients et qu'on se débrouille autrement. Mais en tout cas, voilà, ce pari de visibilité qu'il y aura au moins du travail pour absorber le coût du travail d'une personne. Et en fait, il n'y a pas de raison que les cabinets d'avocats échappent justement à cette question. Enfin, je veux dire, l'avocat devrait avoir cette même réflexion. Et d'ailleurs, la plupart ont cette réflexion. Hein, je veux dire, est-ce que je vais avoir de quoi alimenter un collaborateur? Est-ce que je vais avoir assez de dossiers pour le rentabiliser? Est-ce que je vais mon développement va s'accroître de façon assez significative pour l'absorber, etc. La plupart l'ont, et d'ailleurs, moi, côté Iricitebis, je vois beaucoup de premiers recrutements et je suis directement en prise avec cette inquiétude de bon, ok, là ça va, ça fait plusieurs mois que ça va, ça fait d'ailleurs plusieurs mois que je suis sous l'eau, mais est-ce que ça va se poursuivre ou est-ce que, enfin voilà, je pense que leur pire angoisse c'est que ils recrutent et puis le lendemain ça s'essouffle complètement. Donc voilà, aucune raison que ça échappe aux avocats. Et cette collaboratrice disait plutôt voir ça sous l'angle de la rentabilité, c'est-à-dire attendre de son collaborateur qu'il facture deux fois sa rétro mensuelle, trois fois ou deux fois et demi, etc. etc. Et de cette façon, le collaborateur sait qu'il doit sortir tant d'actes par mois en fonction des tarifs que le cabinet pratique auprès de ses clients et que sur le reste du temps, il s'organise comme il veut pour gérer son activité perso. Et pas que les dossiers, mais aussi la formation, la communication, etc. Alors, c'est selon moi une pratique intéressante et je connais des cabinets qui la pratiquent. La réserve que je ferais là-dessus, c'est que par contre, il faut être, ça implique que le cabinet soit hyper transparent sur les aspects financiers du cabinet. C'est-à-dire que à partir du moment où ce que doit le collaborateur au cabinet, c'est un certain objectif de facturation. Et là, à déterminer si on parle de facturable ou de facturé, eh bien, globalement, mais a priori, si on est sur un objectif de CA rentrée, enfin de rentabilité, bah, du coup, on n'est pas sur du facturable, mais on est sur du facturé. Bah, ça veut dire qu'il faut être transparent auprès de son collaborateur, parce qu'il faut pouvoir dire, bah, ça y est, maintenant tu as atteint ton seuil de rentabilité, merci, tu peux travailler sur autre chose. Ou sinon, bah, quid, du coup c'est du dépassement, enfin qu'est-ce qui se passe? Et l'autre chose, c'est que le collaborateur se retrouve quand même extrêmement dépendant de la capacité à facturer de son collaborant. Ça veut dire d'à quel point est-ce que son collaborant fait payer cher ou pas ses services. À quel point est-ce que le collaborant fait beaucoup de write-off, vraiment les aspects très rentabilité, le coût du travail, quoi. Donc, oui, mais attention sur ce que ça implique derrière en termes de transparence. Et pour moi, ça fait quand même beaucoup peser. Enfin, c'est mettre comme un objectif sur le collaborateur qui, en réalité, est beaucoup trop dépendant de la faculté commerciale de son collaborant et qui donc de ce fait présente quand même un risque parce que ça veut dire que le collaborateur n'est pas vraiment maître de est pas vraiment maître de l'atteinte de ses objectifs en fait. Enfin, ça dépend pas de lui, c'est pas lui qui a ces cartes-là en main. Donc voilà. Le gros des réflexions qui est ressorti des messages que j'ai reçus à la suite de cet épisode sur le contrat de collaboration libérale. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je vous parle? Ça fait une demi-heure et on va rentrer dans le vif du sujet, mais vous allez voir qui est connecté. Aujourd'hui, on va parler de l'installation. Et en fait, je voudrais... je vais être rabat-joie pour une fois. Et je vais ne pas vanter l'installation comme un truc magique. Alors, pourquoi? En fait, je suis assez fâchée contre le mythe de l'appel d'air. Et je suis fâchée contre ce mythe et en même temps, je sais que je fais partie des éléments qui, des facteurs qui contribuent à perpétuer ce mythe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... comme vous le savez, j'interviewe des avocats dans leur robe. J'ai fait plus de 250 interviews d'avocats, dont une bonne partie ne sont pas collaborateurs. Enfin, une bonne partie même. L'écrasante majorité ne sont pas collaborateurs, mais ou associés ou individuels, ou fondateurs de cabinets où il y a avec des collaborateurs. Mais bon, en tout cas, bref, plutôt posture à la tête de son cabinet, de son activité. Et je ne compte plus le nombre de personnes à qui j'ai demandé bah, comment est-ce que vous avez développé votre clientèle, comment est-ce que ça s'est fait, et qui disent bah, je sais pas, j'ai rien fait de particulier, je me suis installée et il y a eu, l'appel d'air de l'installation. Les confrères m'ont envoyé des dossiers, le moment où j'ai posé ma plaque, les dossiers sont arrivés et en fait, ça ne s'est jamais arrêté et c'est comme ça que je me suis installée. Et puis ensuite, sur cette base-là, j'ai développé. Ce genre de réponse, c'est arrivé vraiment souvent, quoi. Et donc, bah, je sais que le podcast a contribué aussi à diffuser enfin, l'existence de ce facteur, qui est le facteur de l'appel d'air au moment où on s'installe. Et qui fait qu'on s'installe, et là où avant on avait quelques dossiers des persos, le fait qu'on s'installe et qu'on le dise autour de soi attire des dossiers en tant que tel. Et c'est vrai, ce facteur existe, et il y a plein d'avocats qui en ont bénéficié, encore une fois, la preuve est dans le podcast. Donc l'idée, c'est pas de dire que ça n'existe pas. En revanche, je pense que c'est dangereux d'entretenir le fait que bah, t'inquiète, tu vas voir, tu vas t'installer, tu vas poser ta plaque et les dossiers vont arriver. Parce que pour le coup, cet appel d'air, ça reste quand même, enfin je veux dire, c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas non plus pour ça que c'est quelque chose de certain et qui arrive quoi qu'il arrive. Et vous avez aussi, il y a aussi des exemples d'avocats qui n'ont pas bénéficié de cet appel d'air ou qui n'en ont pas bénéficié de façon, on va dire, assez significatif pour que ça leur permette vraiment de démarrer une activité dans des conditions, enfin, sans avoir à, d'une certaine manière, lutter pour développer leur activité. Et donc, bah, voilà, c'est pas juste, je pose ma plaque et ça arrive. Et je pense que c'est hyper important de le rappeler parce que, bah, en fait, ce qui est dur, en tout cas pour moi qui observe, qui suis en première ligne d'observer des avocats au stade de leur installation, parce que avec mon activité avec Fleur d'Avocat et ma formation développer sa clientèle, J'accompagne et j'ai accompagné un bon nombre d'avocates dans ce moment de transition, c'est-à-dire le moment où ils quittent leur collaboration et vraiment ils s'installent. Et où je les ai accompagnés pendant leur préavis et vraiment au moment de la bascule ou peu après la bascule. Et donc j'ai à la fois été témoin de démarrage facilité et accéléré par cet appel d'air, mais j'ai aussi été témoin de démarrage pour le coup sans cet appel d'air ou avec quasi pas d'appel d'air. Et voire avec un appel d'air insuffisant par rapport aux contraintes, notamment financières, de la personne. Et donc, rappelons que l'installation, c'est pas. Enfin, je ne sais pas si c'est un processus normal de développement d'un avocat. Je pense que dans une certaine vision de la profession, ça l'est. Dans la réalité de la profession telle qu'elle est, je ne suis pas sûre. Et deuxièmement, bah en fait, une installation, ça reste un démarrage d'entreprise. Et un démarrage d'entreprise, c'est sujet à. Enfin, c'est un moment risqué. C'est un moment risqué et c'est sujet à. C'est aussi sujet à de l'échec. Je crois que le pourcentage d'entreprises qui n'atteignent pas les 5 ans de vie est énorme. Je me demande si c'est pas. Enfin, je l'ai plus en tête, mais c'est vraiment énorme, quoi, le nombre d'entreprises qui n'arrivent pas à. Enfin, voilà, qui se lancent et puis qui ne tiennent pas les 5 premières années. Et en fait, les avocats sont sujets, je ne sais pas si dans les mêmes proportions ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, les avocats sont aussi sujets à ce phénomène de. Ben, en fait, s'installer, c'est démarrer son entreprise. Alors, vous me direz, si la collaboration libérale s'est passée comme elle doit se passer, normalement. Au moment de l'installation, on ne s'installe pas en partant de zéro. On s'installe et on a une base de clientèle. On a déjà eu des clients perso et non seulement on en a déjà eu, mais en fait, on a déjà une base de perso, une base de chiffre d'affaires qui nous est propre et qui, en fait, constitue ce... Enfin, voilà. Et donc, en fait, dans la théorie stricte de la collaboration libérale, le démarrage de l'entreprise, il est au jour de la prestation de serment. Bon, la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est que énormément d'avocats, je ne sais pas si c'est une majorité, si c'est une minorité, ou je ne peux pas vous parler en termes de proportion, mais énormément d'avocats s'installent en partant de zéro ou de quasiment zéro. Mais vraiment, ils ont tout à construire au moment où ils s'installent. Et à part avoir fait. Éventuellement, quand ça arrive, parce qu'il y en a aussi qui n'ont jamais fait de perso et qui s'y mettent au moment de leur installation, à part avoir fait quelques dossiers pour l'oncle Trucmuche ou pour la copine machin, arriver sans effort, voilà, mais sans vraiment système de développement et sans avoir vraiment engagé une vraie dynamique entrepreneuriale, en fait, moi j'en vois quand même aussi, et j'en vois aussi beaucoup. Et encore une fois, bah, c'est ce qui s'explique aussi, je les vois dans le cadre de développer sa clientèle notamment, ou d'autres activités de conseil plus ponctuelles. Et c'est aussi pour ça qu'ils viennent chercher mon conseil, c'est parce qu'en fait, ils partent de zéro et qu'ils se posent un peu la question de comment faire pour enclencher cette dynamique. Et donc, voilà, si la collaboration libérale s'est passée comme elle doit se passer en théorie. La dynamique, elle est enclenchée dans la pratique et en réalité. Il y a énormément de situations dans lesquelles cette dynamique n'a pas été enclenchée. Et en fait, cette dynamique, elle s'enclenche au jour de l'installation. C'est-à-dire, je quitte mon cabinet et ben là, de quasiment zéro, voire de zéro, je me lance dans une dynamique de développement et en fait, je lance mon cabinet et il faut que ça marche. Et donc, option numéro une, l'appel d'air existe et fonctionne pour cette personne. Et c'est formidable parce que ça permet, entre guillemets, rapidement de pouvoir être mobilisé sur des dossiers et de faire entrer du chiffre d'affaires. Et puis, en parallèle de mettre en place ben voilà, toutes les actions qui vont permettre de développer ce chiffre d'affaires et son activité propre et sa clientèle propre. Et donc, voilà, formidable. Mais si cet appel d'air ne fonctionne pas, ou s'il ne fonctionne pas beaucoup, Eh bien, ça ne veut pas dire que l'installation va être un échec, ça veut juste dire que ça va être une installation en version on sort les rames et on sort les rames pour avoir des clients. Et ce que je voudrais rappeler, je le dis beaucoup à mes clients et à mes clientes, mais c'est, voilà, je le rappelle ici parce que vous êtes vachement plus nombreux ici, c'est que développer, ça prend du temps. Développer une entreprise, ça prend du temps. Alors, ça ne prend pas nécessairement 1 000 ans. Et bien évidemment, ce temps, il est aussi extrêmement dépendant du barreau dans lequel vous exercez, du type de cible que vous souhaitez développer, du type d'opérations sur lesquelles vous travaillez, de votre domaine d'expertise, je crois que j'ai dit déjà le barreau, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que ça va être plus ou moins long, de votre réseau, de... Voilà, encore une fois, il y a plein de facteurs qui font que c'est plus ou moins long. Mais en fait, développer, ça prend du temps. Et au démarrage, et ça, je le sais, c'est extrêmement déstabilisant pour beaucoup d'avocats qui s'installent sans dossier. Au démarrage, votre travail, c'est d'être à 100% dans la vente. Et en fait, vous êtes à 100% commercial de votre propre cabinet. Et en fait, moi, ce que j'observe, c'est que pour certaines personnes, c'est extrêmement déstabilisant parce que, en fait, ça leur crée presque un sentiment d'imposture, c'est-à-dire qui suis-je pour développer si, qui suis-je si je ne fais pas du droit, quoi? Et suis-je légitime comme avocat si je ne fais pas du droit? Et voilà, et puis sans parler du fait que si elles n'ont pas fait de commercial jusqu'à maintenant et si elles s'y mettent le jour de leur installation, a priori, c'est que c'est jamais quelque chose qui les a trop intéressés jusqu'à maintenant, donc c'est une grosse sortie de zone de confort. Donc elles se retrouvent à faire 100% d'un truc qui est jusqu'à maintenant pour lequel elles n'avaient pas d'appétence et qui leur est 100% confortable. Donc en fait, c'est vraiment ce moment-là. Vous vous installez, vous n'avez pas de clients, ça vient pas tout seul et il faut sortir les rames pour aller les chercher. C'est un moment de grande vulnérabilité pour beaucoup d'avocats. Et j'en vois et j'en ai vu, donc il faut aussi en parler. C'est un moment de grande vulnérabilité, de perte de confiance en toi, en soi, d'inconfort, évidemment de stress financier, mais au-delà du stress financier qui n'est pas neutre, hein, mais au-delà de ça, d'inconfort, ne serait-ce que parce que on ne fait que des choses. Qui sont des sorties de zone de confort, qui ne nous sont pas nécessairement agréables, pour lesquelles on n'avait pas d'appétence jusqu'à maintenant, pour lesquelles on n'a pas développé un muscle, et donc, c'est dur, quoi. C'est dur. Et le risque, bien évidemment, pendant cette période-là, c'est d'être absorbé par tout sauf ça. C'est-à-dire que de toute façon, il y a quand même un phénomène assez magique qui est que moins vous en faites et plus le temps se meuble, pardon, je vais y arriver, plus le temps se remplit parce que en fait, on peut remplir du temps et on peut remplir du temps avec plein de choses si on le cherche en fait, hein, ou si on le cherche pas, mais indirectement on le cherche, et qui n'est pas ce qu'on doit vraiment faire, c'est-à-dire aller prospecter, aller chercher des clients, aller faire du réseau, communiquer par tous les moyens qui sont à sa disposition pour développer. Donc voilà, d'ailleurs, parenthèse, mais de mon observation, en tout cas lors de cette installation et après une collaboration, il y a souvent une période un peu flottante de 2 3 mois, on va dire en fonction de la rapidité de la personne, où clairement le temps de vraiment quitter sa collaboration, de tourner cette page, de prendre ses propres locaux, d'aménager ses locaux, je sais pas, plein de trucs un peu administratifs et comptables. Qui marque cette transition administrative, comptable et annexe, je sais pas moi, d'installation, s'il faut acheter un ordinateur, si toutes ces choses-là. J'ai souvent observé une espèce de phase là comme ça de 2 3 mois où la personne est censée être à 100% sur son développement, mais en fait elle n'y arrive pas parce que ce temps-là est rempli par plein de petits trucs comme ça, chronophages, voilà. Et donc, à avoir en tête en vous projetant dans votre propre installation que probablement, c'est pas parce que votre collaboration s'est terminée hier que AJ+1 ou AJ+2, vous serez en mode « Ok, ça y est, je suis full dispo pour aller chercher du client et pour être en mode commercial. En fait, voilà, anticipez qu'il y aura probablement une période dans laquelle vous allez être absorbé par plein de petites tâches chronophages qui vont vous absorber du temps et de l'énergie et qui retarderont, entre guillemets, d'autant le moment où vous allez vraiment vous mettre à aller chercher du client. Bref. Donc voilà, donc bah, au démarrage, si vous n'avez pas cet appel d'air, le gros de votre travail, ça va être d'être commercial. Alors là, un gros point d'attention aux jeunes mamans qui s'installent pour avoir plus de flexibilité pour gérer leur vie de famille. Un gros warning, parce que le gros risque que vous prenez, et vous êtes nombreuses à le faire, et franchement, je le comprends, mais le gros risque, c'est que au démarrage, si vous n'avez pas cet appel d'air et si vous ne vous installez pas avec une base de clientèle qui vous donne déjà du rythme, effectivement, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de flexibilité. Vous allez vous retrouver, donc vous n'avez pas de clients, mais vous avez un bébé. Et vous n'êtes pas nécessairement en mode machine de guerre de commercial, ne serait-ce que parce que probablement c'est pas votre zone de confort, et encore une fois c'est pas ce dans quoi vous êtes à l'aise, et donc c'est toujours ce dans quoi on n'est pas à l'aise qu'on reporte en premier, hein. Évidemment, enfin c'est quand même la tendance naturelle. Et donc vous allez vous retrouver très disponible pour votre vie de famille. Et en fait, attention à ne pas transformer cette installation en une sorte de... Enfin, je dis ça, mais si c'est votre choix qu'à ce moment-là, vous soyez très disponible pour votre famille et qu'en fait, cette installation, ce soit une sorte de congé parental, grand bien vous fasse. Mais si c'est choisi, délibérément choisi, organisé, et voilà, et pas si c'est subi, et que en fait le démarrage de votre entreprise qui est censé vous prendre énormément d'énergie pour avoir des clients, au démarrage on dépense beaucoup d'énergie pour avoir des clients, faites attention à ce que justement cette flexibilité et cette disponibilité que vous avez pour, entre guillemets, du fait de ne pas avoir de clients, de dossiers, de deadline, de tout ce que vous voulez, qu'au lieu de la dédier, cette énergie-là, ce temps-là qui n'est pas dédié à des clients, à à des délais à gérer, à des audiences, à des trucs, à des machins, juste à du fond, faites attention à bien l'utiliser pour votre développement d'activité et qu'il ne soit pas absorbé, parce qu'en fait, en général, c'est absorbé par votre vitamine. Et je dis ça, j'utilise cette notion de absorber parce que, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que ça se fait de manière insidieuse. C'est-à-dire que c'est pas vous qui vous dites « Ah, du coup, tant que j'ai pas de clients, je m'occupe de ma famille. » Ça se fait de manière beaucoup plus, encore une fois, insidieuse et d'une certaine manière subie et subtile, qui est juste que les enfants et cette vie, cet aspect-là de votre vie, ça peut prendre beaucoup de place si vous lui laissez, si vous le laissez s'infiltrer dans cet espace libre que vous êtes censé dédier au commercial. En tout cas, si votre idée de départ, c'est vraiment que ce soit un moment d'installation et de développement de votre activité. Voilà. C'est extrêmement cliché que je vous dise attention aux jeunes mamans, nanana. La vérité, c'est quand on regarde quand même les chiffres sur les revenus des avocats, et des avocates, il y a une différence drastique entre les hommes et les femmes, et ça ne s'explique pas que par les spécialités choisies. Donc ça s'explique aussi quelque part, et ça s'explique entre autres par ces situations avec... Et je vous rassure, les avocates ne sont pas les seules concernées. Hein. Ça arrive à plein de freelances et plein d'indépendantes et plein de jeunes, de jeunes et moins jeunes. Mais en général, quand on a des enfants en bas âge, c'est qu'on est plutôt jeune. Maman et chef d'entreprise, du coup, qui sont affectés par cette trappe-là Donc voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas que les avocates qui sont concernées. Il se trouve que moi, je parle principalement à des avocates, donc voilà, donc je vous dis ça. Je suis désolée que ce soit si rangé et si stéréotypé, mais voilà, tout ça, c'est... L'idée, c'est pas que votre installation, ce soit, bah, du coup, c'est génial, j'ai quelques clients qui se battent en duel, je fais pas beaucoup, je fais presque pas de chiffre d'affaires, mais par contre, je suis dispo pour, je suis dispo pour mes enfants. Enfin, je veux dire, encore une fois, sauf si c'est vraiment votre objectif et que c'est, tout ça n'est pas subi. Et vous êtes bien libre de vivre votre vie et votre maternité comme vous le souhaitez. Et de vous organiser un congé de cette façon-là, si c'est ce que vous souhaitez. Moi, mon propos, il tient surtout à celle dont c'est pas le projet que de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, on a méga subi son année et qu'on a l'impression de pas avoir eu de temps et que, en fait, le temps qu'on pensait dédier à son installation, on l'a dédié au fait de s'occuper de sa famille. Voilà, je ferme cette parenthèse de warning. Je ferme cette parenthèse de warning. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que, eh bien, l'appel d'air n'étant pas une certitude, globalement, il faut que vous vous installiez vraiment en mode maintenant, à partir du moment où vous vous installez, vous êtes en mode entrepreneur. Ça implique de gérer l'incertitude. Et l'incertitude, c'est aussi l'incertitude de l'incertitude de est-ce que je vais avoir des clients et des dossiers, quand est-ce que je vais les avoir, combien est-ce que je vais réussir à facturer, enfin vraiment cette incertitude du développement d'une activité. Et aussi, donc, je vous disais, quand est-ce que je vais les avoir? Et donc aussi l'incertitude du démarrage vraiment financier de son activité. Il y a une myriade de stratégies possibles pour développer son activité. Il y a le réseautage physique, le réseautage sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Vous avez le référencement naturel, vous avez Google Ads, vous avez comme stratégie de développement, vous pouvez reprendre un cabinet aussi, acheter une clientèle. Enfin voilà, bref, des stratégies dans l'absolu, il y en a plein. Des types de contenus, il y en a plein, un podcast, YouTube, bon, là, je reviens sur les contenus web, mais voilà, en tout cas, vous comprenez l'idée. Bien évidemment, tout ce qui relève des permanences, qui est une manière de... Enfin, moi, j'ai envie de dire, les permanences, c'est comme si c'était un gros client, c'est un flux de chiffre d'affaires qui est composé par plein de sous-clients, mais en fait, vos vrais clients en permanence, c'est surtout la permanence en tant que telle. Donc voilà, il y a une myriade de stratégies possibles et en fait, personne ne peut vous garantir que l'une de ces stratégies, enfin, il y a forcément une de ces stratégies qui va fonctionner, mais l'incertitude, elle est sur le temps que ça va prendre pour que ça fonctionne. Et encore une fois, c'est tellement dépendant de l'écosystème. Géographique, concurrentiel, de votre réseau de base, de votre propre capacité à tester des choses et à tester de nouvelles choses et à être compétent dans les stratégies de développement que vous développez, que ça, voilà, vraiment, personne ne peut vous dire si tu fais ça, c'est sûr. Dans X semaines ou dans X mois, tu auras généré X de chiffre d'affaires ou tu auras géré X clients. Et si quelqu'un vous vend ça, franchement, enfin moi je m'en méfie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y a une myriade de stratégies possibles et vous allez composer avec déjà la difficulté de faire un choix. Sur là ou les stratégies dans lesquelles vous allez vous engager, sachant que vous ne pourrez pas tout tester d'un coup, parce que même si 100% de votre temps, c'est du commercial au démarrage, en fait, chacune de ces stratégies prend du temps. Le réseautage physique, rencontrer les gens, remobiliser votre propre réseau pour des déjeuners, des verres, des trucs et des machins, ça prend du temps. Écrire sur LinkedIn, être présent, communiquer sur LinkedIn, ça prend du temps. Communiquer sur Instagram, ça prend du temps. Mettre en place une stratégie de référencement qui fonctionne rapidement, ça prend du temps. Enfin, en fait, chacune de ces stratégies en tant que telle prend du temps, à la fois pour la mettre en place au jour J et à la fois pour porter des résultats, pour porter ses fruits. C'est là parce que, enfin, c'est assez rare, il y a eu quelques exemples dans ce podcast, mais la majorité du temps, c'est pas parce que vous postez un truc sur LinkedIn ou un truc sur Instagram ou que vous faites un article sur pour votre blog à viser de référencement naturel, c'est pas parce que vous en faites un que tout de suite vous avez du client qui débarque. Et partez plutôt du principe que en fait ça va prendre plus d'énergie que juste un déjeuner, un post, bref, une occurrence de quelque chose. Donc voilà, donc globalement, vous avez une myriade de stratégies possibles, et vous allez devoir composer avec l'incertitude de quelle est la meilleure à choisir à un instant T, avec laquelle prioriser, dans laquelle vous engagez pleinement le plus vite possible. Et ensuite, une fois que vous aurez choisi une stratégie de développement, composer avec la deuxième incertitude qui est que cette stratégie va falloir, entre guillemets, lui laisser la chance de porter ses fruits. Et donc, à la fois, l'exploiter de façon assez intense pour vous dire que vous lui avez vraiment laissé sa chance. C'est-à-dire que si vous vous dites, bon, je vais développer ma clientèle grâce au référencement naturel et qu'en 3 mois, vous avez difficilement publié deux articles de blog sur votre site, vous n'avez pas donné sa chance à cette stratégie de développement par le référencement naturel. Vous avez à peine trempé le petit doigt de pied dans le sujet. Donc ça, c'est une première chose. Derrière, enfin, il faut vous donner un temps de « je fais intensément quelque chose ». Et au bout d'un moment, je vois quels sont les résultats de ça. Et sachant que dans une même stratégie, vous avez du test and learn à faire. Vous avez de l'apprentissage sur le terrain à faire, de tester des choses. Je vous donne l'exemple typique avec, je sais pas moi, le réseautage ou avec LinkedIn, pour parler d'un canal que je connais bien. LinkedIn, c'est pas parce que... vous allez potentiellement laisser sa chance à LinkedIn en vous disant « bon, je vais être à fond sur LinkedIn pendant 3 mois et je vais voir ce qu'il en ressort ». Mais pendant ces 3 mois, vous allez faire du test and learn. Vous allez voir s'il y a des posts qui fonctionnent mieux que d'autres. Et les posts qui fonctionnent mieux, itérer là-dessus et voir comment est-ce que vous pouvez répliquer ce modèle, etc. etc. Donc, dans une stratégie, il faut s'y mettre pleinement. Il faut lui laisser un minimum de temps. Et donc, c'est un temps pendant lequel vous acceptez de l'incertitude. Parce que potentiellement, vous allez passer 3 mois sur une stratégie qui ne va pas porter ses fruits. Et ça fait partie de l'incertitude qui est propre à l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous dites que vous lui laissez quand même un certain temps à sa stratégie pour en tirer des résultats. Et dans ce temps-là, vous avez du test and learn à faire parce que peut-être que le problème, ce n'est pas le canal de développement que vous avez choisi. Par exemple, vous avez choisi LinkedIn. Le problème, ce n'est pas que LinkedIn ne fonctionne pas. C'est que la façon dont vous êtes présent sur LinkedIn ne fonctionne pas par rapport à votre objectif de développement de clientèle. Donc, il y a cette double gestion de l'incertitude et de, voilà, encore une fois, qui vous est propre à partir du moment où vous êtes entrepreneur et qu'il faut apprendre à gérer. Et ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit, en fait. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de formateurs et de coachs qui, au bout d'un moment, sont plus sur des questions de techniques de développement, de techniques de SEO, de techniques d'accroche LinkedIn, de trucs de machin, parce que en fait, finalement, ce qui sépare vraiment un entrepreneur d'un autre, ça finit par être l'état d'esprit, parce que c'est à quel point est-ce que tu as l'état d'esprit pour te permettre d'encaisser toutes les émotions qui viennent dans cette période d'incertitude, pour encaisser cette nécessité du test and learn, etc. Donc voilà, donc ça c'est une chose, je sais pas si ça vous aide dans cette notion d'installation d'installation notamment en cas d'absence de cet appel d'air magique qui ferait que ça fonctionne. Je voulais poursuivre en vous faisant un petit point finance et invitation à vous installer avec une trésor saine, c'est-à-dire s'installer quand en plus on a une trésor qui est hyper fragilisée, c'est compliqué. Fragilisé parce qu'on doit de l'argent à l'URSSAF ou quoi aux caisses, c'est compliqué. Mais en plus, Du coup, pour pouvoir encaisser cette incertitude, de vous installer avec non seulement une trésor saine, mais même une trésor avec un peu d'avance. Je le conseille beaucoup cet épisode parce que je le trouve vraiment pertinent de ce point de vue-là. L'interview de Vanessa Blot, qui est avocate en droit de la famille au barreau de Lille, et qui explique qu'elle avait été, quand elle était collaboratrice, extrêmement conservatrice de sa rétrocession d'honoraires, qu'elle avait, même si elle avait une rétrocession d'honoraires au tarif minimum lillois, qui était vraiment pas glorieuse, qu'elle en avait provisionné 50%, et que, voilà, elle-même, à titre perso, au tout démarrage, elle n'avait pas changé son style de vie par rapport à quand elle était étudiante pour maintenir des charges vraiment très faibles. Et voilà, et que le fait d'avoir bien provisionné 50% et d'avoir en plus eu son épargne de précaution bien constituée et tout, ça lui avait permis, le moment où elle s'est installée, bah, non seulement de partir sur une trésor saine, mais en plus de partir avec une petite avance, enfin voilà, un petit coussin de trésor qui, enfin voilà, et du coup, lui avait permis à la fois d'encaisser une installation et en plus de cumuler installation et projet immobilier, parce qu'elle a tout de suite investi dans ses locaux, quitte à payer une domiciliation. Bah, en fait, voilà, elle a cumulé les deux. Mais on n'était pas sur une avance de trésor de fou, hein, mais quand même assez un matelas suffisant pour ben voilà, pour que le financier soit pas que du stress. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi, beaucoup de personnes me disent que je suis trop conservatrice quand j'invite les collaborateurs à provisionner 50% de leur rétro. Mais encore une fois, même si peut-être que c'est provisionné un petit peu trop par rapport à stricto sensu que vous devez en termes de charge, au pire, vous aurez provisionné un petit peu trop. C'est pénible le jour J. Enfin, c'est pénible au présent parce que, entre guillemets, ça vous coupe d'un net-net pour vous, pour, entre guillemets, votre argent de poche et votre style de vie au quotidien. Mais à moyen terme, vous vous remercierez d'avoir potentiellement cette petite enveloppe, ce matelas qui vous rendra votre installation plus confortable. Voilà, alors j'ai noté plusieurs points. Je suis désolée, c'est un long épisode. Quid si c'est un échec. Non, avant d'aborder ce sujet, je me suis mis comme point prévenir plutôt que guérir en développant pendant sa collaboration. Alors, donc déjà, prévenir plutôt que guérir en développant pendant sa collaboration. Ben, on en revient à ce qui est censé être la collaboration libérale. Et voilà, donc prévenir contre... Enfin, tout simplement, c'est sûr que si vous partez avec déjà une clientèle, une base de clientèle constituée et une dynamique de développement qui est enclenchée, c'est l'idéal. Cela étant, il y a un autre sujet à prendre en compte ici, qui est que pour plein de raisons, vous pouvez avoir des collaborations sur lesquelles vous n'allez pas développer en parallèle. En tout cas, vous n'allez pas développer au terme stricto sensu, développer une clientèle. Parce que c'est une collaboration extrêmement exigeante en termes de temps, par exemple, qui va avec la rétrocession qui va avec, etc. Alors, j'aime bien rappeler que, globalement, vous avez deux casquettes quand vous êtes avocat. En tout cas, quand vous êtes avocat installé, vous avez deux casquettes. Quand vous êtes avocat installé, vous avez la casquette du fond, vous êtes avocat, l'expertise technique. Et vous avez la casquette de l'entrepreneur, et donc la casquette à la fois du commercial, et puis aussi commercial, communication, et aussi la casquette de la gestion, de l'administration du quotidien. Si vous développez dès le démarrage en parallèle de votre collaboration, et ce développement en parallèle de votre collaboration, ce qui est sûr, c'est que autant il est accessoire dans certaines collaborations libérales qui sont extrêmement bien rémunérés et qui font que, globalement, la rémunération en tant que telle supporte votre vrai temps plein sans que vous ayez à développer, même si ce n'est pas l'esprit, même si tout ce que vous voulez, ça le supporte. Mais dans certaines collaborations, c'est sûr que si vous êtes, encore une fois, à un tarif minimum, En fait, la question du développement de votre perso, elle ne devrait pas être une question. En fait, c'est inscrit dans ce deal-là que vous devez développer, enfin, vous devez prendre du temps, que votre cabinet soit d'accord ou pas, enfin, que ça plaise à votre cabinet ou pas, vous devez prendre du temps pour votre développement parce que vous n'êtes pas assez bien rémunéré pour à la fois dédier tout votre temps au cabinet et en plus ne pas avoir la protection en cas de séparation. Et en plus, ne pas développer votre perso. Enfin, du coup, cette protection, vous devez vous la constituer vous-même et ça passe par le fait d'augmenter vos revenus. Si vous êtes dans une collaboration dans laquelle vous pouvez vous dédier à l'expertise technique, c'est-à-dire une collaboration dans laquelle vous pouvez vous contenter de traiter les dossiers pour le cabinet, enfin, vous contenter, dédier toute votre énergie à ça. Du fait tout simplement que c'est une collaboration qui vous rémunère confortablement, assez confortablement pour pas avoir besoin de ce complément de revenus sans perdre, entre guillemets, en indépendance. Vous allez vous dédier à l'expertise technique et à devenir très fort dans votre métier. Et puis, le jour où vous allez vous installer, alors où vous aurez commencé votre perso, mais peut-être pas, vous vous installez et là vous serez devenu très fort sur le technique et maintenant il faudra que vous appreniez d'un coup à devenir aussi un bon communicant et un bon commercial, en tout cas à ramener du client, aller chercher du client. L'autre option c'est juste une répartition de l'énergie quoi. Vous aurez dédié 100% de votre temps à devenir un bon technicien. Et puis ensuite, vous serez devenu un très bon technicien et le jour où vous vous installez, c'est un acquis. Vous serez devenu un bon technicien, vous aurez déjà tous vos modèles, vous aurez encore plein de choses à apprendre. Mais voilà, vous aurez une base de fond. Vous n'aurez pas besoin d'apprendre à faire votre métier, en fait. Ce qui est différent de quand vous... Alors, évidemment, quand vous vous installez sans passer par la case collaboration, là, vous devez tout apprendre d'un coup. Vous devez à la fois apprendre à être un bon avocat et à être technicien, et vous devez en même temps apprendre à être un bon entrepreneur et un bon administrateur de société. Donc, ça fait beaucoup. L'énergie, elle n'est pas illimitée. Il y a un moment où c'est un peu comme si vous aviez 100 M&M's. Dans le cas où vous placez ces 100 M&M's d'un coup, vous les placez à devenir un bon technicien. Forcément, vous avez tous vos M&M's placés dans le fait de devenir un bon technicien, quoi. C'est toute votre énergie. Dans l'autre cas, vous avez vos 100 M&M's et en fait, vous en avez 50 pour devenir un bon avocat et 50 pour devenir un bon technicien. Et donc, par définition, il y a moins de matière dédiée à chacun. Enfin, voilà, vous n'apprenez pas exactement de la même manière et il n'y a pas une situation qui est meilleure que l'autre. Il faut juste être conscient que dans un cas, on se concentre sur une seule chose et dans l'autre, on diversifie son énergie en deux choses. Et ce qui n'est pas forcément plus facile parce que du coup, tout démarrage, quand on n'a pas appris son métier dans un cabinet, quand on n'est pas devenu un bon technicien dans un cabinet par le biais de la collaboration, il faut aussi qu'on apprenne. Ça coûte énormément d'énergie que de devenir ce bon technicien. Il va falloir que vous alliez chercher des modèles, que vous vous constituiez vos modèles, que vous appreniez les différentes procédures, que vous appreniez tout, quoi, tout sur le fond. Et voilà. Et ça a un impact aussi sur votre capacité à déterminer vos honoraires et tout, parce qu'en fait, comme vous savez pas ce que coûte. Vous ne savez pas le coût de votre travail, vous ne savez pas ce que requiert un dossier, ce que requiert une opération comme démarche, etc. C'est dur en fait, de gérer votre activité correctement, de pricer vos honoraires correctement, alors que vous avez une visibilité assez limitée de l'expertise et de ce que requiert un dossier. Je dis ça, moi par exemple, mon premier dossier perso c'était de l'indemnisation du dommage corporel. Je crois que j'avais... tarifé à 900 euros, quelque chose comme ça, la procédure, l'accompagnement en expertise, la procédure d'expertise. Quand j'avais dit ça à mon cousin, qui était avocat aussi et qui faisait du dommage au poids, il m'avait dit, mais en fait, non, c'est pas possible. C'est pas possible par rapport à ce que ça va te demander comme travail. Bon, clairement, je travaillais à perte, mais en fait, dans cette perte, il y a mon apprentissage. C'est juste parce que j'avais jamais géré ce genre de procédure et que je l'ai apprise sur le tas, en fait. Et donc, dans mon apprentissage, il y a eu l'apprentissage de ce que c'est que d'accompagner un client de A à Z dans une procédure de référé expertise pour obtenir une indemnisation de son dommage corporel, en l'occurrence devant le tribunal administratif. Donc, quand vous vous installez directement, vous avez cet apprentissage à faire en plus de l'apprentissage du commercial. Donc, en fait, d'une certaine manière, pour moi, c'est des vases communicants qui s'équilibrent à peu près. C'est juste que dans un cas, vous faites tout d'un coup, et puis tout d'un coup sur la technique, et ensuite vous êtes déjà bon technicien, vous connaissez votre métier, et vous n'avez plus qu'à apprendre à être un bon commercial. Mais quand un client arrive, vous n'êtes pas perdu, vous avez déjà de la documentation, vous avez déjà tous les réflexes, vous savez gérer ce dossier, et vous avez zéro énergie à dépenser juste pour comprendre comment est-ce que vous devez gérer ce dossier. Et dans l'autre cas, eh bien, dans l'autre cas, vous avez à la fois besoin d'apprendre à développer votre activité. Et en plus, quand vous la développez et qu'il y a un client qui vient, ben là, vous avez besoin en plus d'apprendre à faire votre métier et à gérer ce client. Et donc, ben voilà, vous avez les deux énergies à déployer en même temps. Donc, je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, en fait. C'est juste, voyez-le plutôt comme une histoire de vase communicant. Et en fonction de votre configuration, soyez plus ou moins conscient de à quel point est-ce que vous avez besoin de monter en compétence et sur la technique et sur le développement, ou est-ce que vous avez juste besoin de monter en compétence sur la technique, ou est-ce que vous avez juste besoin de monter en compétence sur le développement, ou est-ce que vous avez besoin de faire les deux, mais ça, je crois que j'ai déjà dit. Il est tard, j'ai pas de script, donc, mais je pense que vous comprenez mon idée. Donc, prévenir plutôt que guérir, si vous êtes dans la configuration, vous devez mener les deux de front. C'est-à-dire que votre collaboration, et notamment la rétrocession, ne permet pas légitimement de penser que vous allez vous dédier qu'à ce cabinet et ne pas faire d'efforts de développement du tout. Dans ces cas-là, globalement, l'idée, c'est évidemment de chercher à... Enfin, vous allez apprendre les deux en même temps, vous allez développer en même temps que vous allez travailler pour le cabinet dans lequel vous collaborez. Donc ça, voilà, c'est les devoirs... Enfin, c'est vraiment l'hypothèse de base, normalement, du contrat de collaboration libérale. Si vous êtes dans l'hypothèse où votre cabinet vous rétrocède une rétrocession assez, enfin, des honoraires assez confortables pour avoir cette tentation de vous dire que, en fait, pour le moment, le développement, c'est pas votre sujet et que vous allez vous concentrer à 100% à devenir un bon expert, c'est fine, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas des choses que vous pouvez mettre en place de façon préventive pour anticiper une installation future, peut-être un jour. Peut-être que vous vous installerez jamais, peut-être que vous vous associerez dans votre cabinet. Peut-être qu'on vous transmettra une clientèle dans le cabinet où vous exercez. Peut-être que vous quitterez la profession d'avocat. Peut-être que plein de choses. Mais peut-être que vous vous installerez et auquel cas, vous serez content d'avoir planté ces graines. Ces graines, bah, c'est clairement d'entretenir votre réseau, d'entretenir votre visibilité en général. Donc réseau, mais aussi réseaux sociaux. C'est pas parce que vous êtes en collaboration. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une démarche active de trouver des clients sur LinkedIn que vous ne pouvez pas communiquer et communiquer sur votre expertise et vous rendre visible et cultiver votre marque et votre marque personnelle, ce qui fait que le jour, et en fait ce qui ne fait que vous permettre le jour où vous allez vous installer de susciter ce fameux appel d'air. Parce qu'en fait, vous serez déjà identifié et les gens identifieront que vous serez en train de vous installer. Et donc, ils vous enverront des dossiers. En tout cas, vous optimisez vos chances qu'on vous envoie des dossiers à ce moment-là. Vous pouvez aussi, voilà, vous êtes en collaboration, vous vous dites un jour, je m'installerai peut-être. Vous pouvez tout à fait vous créer votre propre site internet en tant que collaborateur avec un onglet blog, actualité, ressources, documentation, appelez-le comme vous voulez. et vous dire que toutes les semaines, vous publiez un article. Et en fait, vous êtes tout simplement en train de vous construire un site internet puissant d'un point de vue référencement naturel, surtout si en plus vous vous renseignez sur le fonctionnement du référencement naturel et que vous faites les choses de façon stratégique et intentionnelle. Et voilà, et puis en fait, vous développerez le référencement naturel, c'est en général quelque chose qui prend quand même un peu de temps avant de montrer des effets. Ben en fait, juste en publiant un article par semaine, au bout de 6 mois, un an et demi, 2 ans, vous aurez des clients qui viendront par le biais de ce référencement naturel. Ça aurait été un temps long, fine, mais ça finit par arriver. Et puis surtout, le jour où vous vous installerez, vous pourrez déjà compter sur un site internet qui est fort, qui est bien ancré et qui a un bon référencement. Ça, c'est des exemples de, globalement, comment est-ce que vous allez planter des graines sans forcément être en mode « il me faut du client à court terme », mais en fait, vous pouvez quand même déjà mettre en place des initiatives qui vous permettront à moyen ou à long terme, d'ailleurs, de pouvoir déjà compter sur un actif qui vous sera utile lorsque vous vous installerez et que vous pourrez actionner. Enfin, cet actif sera déjà disponible, en fait. Vous n'aurez pas à commencer à le créer, à le constituer à J1 de votre installation. Donc, potentiellement, réfléchissez, voilà, à comment est-ce que vous pouvez planter des graines en parallèle de votre collaboration. Ce n'est pas nécessairement, encore une fois, du développement commercial à court terme, dans le sens où ce n'est pas un développement qui est en mode, ben voilà, l'idée, c'est que j'ai aujourd'hui, maintenant, des clients qui viennent, parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, vous êtes satisfait de la situation avec votre cabinet et ça vous va de vous concentrer sur le fait de devenir un bon expert technique, mais vous êtes quand même en train de planter quelques graines pour anticiper le moment où vous aurez besoin de mettre un coup de collier commercial avec des efforts entre guillemets relatifs, parce que publier un article tous les 15 jours ou un post LinkedIn toutes les semaines ou une action de réseautage toutes les semaines, c'est quand même à la portée de tout le monde. Voilà, donc ayez ça en tête, histoire de ne pas vous réveiller au moment de l'installation de l'association, enfin en tout cas au moment où le fait d'aller générer du chiffre d'affaires est un moment et est d'actualité. Quid si c'est un échec ? J'avais dit que je ferais un point là-dessus. Quid si c'est un échec ? Je dis ça parce que j'ai vu et j'ai rencontré des collaborateurs dont je sens que l'installation n'est pas une franche réussite. J'ai lu sur Twitter un thread hyper intéressant d'un collaborateur qui est passé par la case installation et à qui ça n'a pas plu du tout et qui s'en est pas sorti et qui s'est fait bouffer par le commercial, qui s'est fait bouffer par la galère d'aller chercher des clients, la galère de gérer le client une fois qu'il est là, la galère de l'aspect chef d'entreprise qui doit bouger sa propre locomotive, aller chercher des clients, les gérer, s'occuper de l'administration du cabinet, enfin vraiment toute cette partie-là, quoi. Et ça l'a cramé et ça l'a quasiment dégoûté. Et en fait, il a retrouvé une collaboration dans un cabinet d'avocats. Et aujourd'hui, il est hyper heureux de juste d'être un expert technique qui travaille sur les dossiers de ce cabinet. J'ai rencontré, je crois que c'était dans un BNI aussi, une avocate dont je sentais que le développement n'était pas hyper fifou et qui me demandait si je pensais qu'elle avait des chances compte tenu de sa seniorité et du fait qu'elle s'était installée, de retrouver une place en collaboration quelque part. Donc voilà, ça pose la question, quid si cette installation est un échec ? Alors déjà, et après, enfin, c'est vraiment à éprouver face au marché. Je pense que c'est bien de savoir se l'admettre. Je pense que c'est bien de savoir se regarder dans la glace et se dire, en fait, je ne m'épanouis pas dans cette situation. Option 1, je trouve un moyen de m'y épanouir, de mieux me former au commercial, de me faire accompagner sur le positionnement. Enfin, j'investis pour arrêter de me débattre tout seul dans mes galères entrepreneuriales, ou juste j'acte que en fait ça me saoule, le commercial c'est pas pour moi, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de me concentrer sur le fond de mon métier, enfin l'aspect, le fond, je sais pas si c'est le fond du métier du coup, vu que quand on est libéral, non, le fond du métier c'est aussi aller chercher les clients, mais j'ai envie de me concentrer sur l'aspect technique et le fond du droit et le fond des dossiers. Et en fait, déjà, le premier truc, c'est de se le dire. De se dire, en fait, là, la situation telle qu'elle est, elle ne m'épanouit pas. Et ben, en fait, j'ai plutôt envie de retourner dans la gestion du fond. Et ce à quoi ça correspond, c'est globalement une collaboration. Une collaboration. Idéalement, une collaboration salariée, franchement, quand on est dans cette situation-là. Mais bon, il y a aussi des collaborations libérales pour des seniors. C'est à la fois pas l'esprit, mais en fait, ça existe et pourquoi pas. Et en fait, au moins, vous aurez de la visibilité financière sur le chiffre d'affaires généré. Et d'une certaine manière, vous pouvez vous dire, bon, bah, je ne vais pas aller chercher les compléments de revenus. Ou s'ils viennent comme ça tout seuls, c'est bien, mais ça fait pas vraiment partie du cœur de mon truc. Et voilà. Je pense personnellement qu'il y a complètement des ouvertures pour ça. Bon, déjà, il y a cet exemple de cet avocat sur Twitter qui nous le donne, et il n'est pas le seul. Et je pense vraiment que il faut oser aller chercher ces collaborations pour des avocats expérimentés, et juste en sachant que, bah voilà, en sachant pourquoi est-ce qu'on y va en fait. Donc oui, il y a cette voie là, et en fait, il faut s'en saisir, et il faut s'en saisir sans honte, parce qu'en fait, si vous aimez votre métier, mais que c'est juste la partie commerciale qui vous rebute, bah franchement, ce serait quand même dommage de quitter la profession, alors que vous pourriez aussi trouver à vous épanouir dans un cabinet d'avocats en collaboration. Alors, la majorité des offres de collaboration, même pour des avocats expérimentés, globalement, vous allez vous situer sur du recherche du 4 à 6 ans, 5 à 7 ans d'expertise, mais vous avez rarement des offres de collaboration pour vous avez 15 ans d'expérience et vous cherchez une collaboration. En fait, c'est assez rare. Donc, globalement, vous allez chercher les offres de collaboration pour des avocats 3, 4, 5 ans et plus. Et la seule question, finalement, ce sera celle de l'enveloppe de rétrocession d'honoraires. Que vous avez, enfin, qui est disponible pour le cabinet. C'est-à-dire qu'un cabinet qui cherche quelqu'un d'expérimenté, c'est souvent enfin, le profil, c'est souvent on veut quelqu'un d'expérimenté parce que j'ai déjà un junior dans l'équipe et deux, ça fait beaucoup, j'ai pas le temps de former deux personnes. Donc j'aimerais bien avoir aussi quelqu'un d'expérimenté sur qui m'appuyer pour les opérations plus complexes. Voire même pour m'aider à manager le junior, etc., etc. Ou un premier recrutement, mais en fait, la personne est déjà tellement sous l'eau que elle n'a pas le temps de. Elle n'a pas la capacité d'absorber un junior qu'elle va devoir former. Et le premier appel d'air dont elle a besoin, c'est de quelqu'un de déjà expérimenté qui puisse être très rapidement opérationnel sur ses dossiers, voire immédiatement opérationnel sur ses dossiers. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, si ce caractère immédiatement opérationnel et fiable sur la technicité, vous l'avez à 5 ans, à 7 ans ou à 15 ans, en fait, ce n'est pas tellement le sujet. Le seul sujet, c'est celui de l'enveloppe disponible par le cabinet. Et donc, mon invitation dans ces cas-là, c'est juste d'anticiper dans votre candidature en rassurant la personne que vous avez bien vu, enfin, bien évidemment, si la fourchette de rétrocession d'honoraires est affichée. Comme c'est le cas sur Iris et Témis, toujours, mais que vous avez bien vu la rétrocession d'honoraires et que c'est une base de discussion qui est OK pour vous, même si vous avez 15 ans d'expérience. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas une augmentation qui est nécessairement proportionnelle à l'âge. Il y a un moment où la rétrocession, elle se tasse. Et c'est parce que voilà, votre marge. Ben voilà, il y a un moment où ça se tasse, ce que vous gagnez en visibilité sur votre chiffre d'affaires et sur vos revenus, vous le perdez en caractère potentiellement exponentiel de l'augmentation de vos revenus qui vont avec le fait d'être à la tête de sa propre entreprise. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est la différence entre l'entrepreneuriat et le non-entrepreneuriat. Et puis, ben, voilà, encore une fois, moi, je me souviens très bien de cette avocate expérimentée qui me disait, en fait, je veux juste retrouver de la visibilité sur mes revenus. C'est trop stressant, ça m'inquiète trop de ne pas savoir d'un mois à l'autre si je vais pouvoir me payer, si, enfin, voilà, quelle va être la tête de mon chiffre d'affaires et combien de clients je vais avoir, etc. Et en fait, c'est complètement OK. Donc, juste sachez que, ben, voilà, la limite en face, en fait, c'est moins que vous ayez 15 ans d'expérience et c'est beaucoup plus. Est-ce que j'ai les moyens de payer ces 15 ans d'expérience? Et l'inquiétude aussi en face, ben, c'est est-ce que vous allez être manageable? Donc, c'est entre guillemets potentiellement quelque chose sur lequel, si vous pouvez apporter des éléments de réassurance, c'est tout à votre avantage. Mais personnellement, je suis persuadée qu'il y a de la place pour ces profils et j'espère que la profession d'avocat va aller en évoluant et en sachant aussi faire évoluer en son sein, voire valoriser et même pourquoi pas des rôles d'associés, des profils de collaborateurs qui ne sont pas sur le commercial mais qui sont beaucoup plus sur le management, le knowledge management et l'aspect d'expertise technique. Parce que bah, en fait, ça aussi, ça apporte beaucoup à un cabinet et tout n'est pas lié à la génération de chiffre d'affaires. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Voilà. Je pense, par exemple, là, on a un cabinet. Enfin, bref, c'est encore un autre sujet. Bref. Non, mais si, en fait, on a fait un recrutement pour un cabinet. Enfin, on a fait. On a contribué en diffusant cette offre pour un cabinet, une avocate qui cherchait vraiment quelqu'un, non pas pour aller générer du chiffre d'affaires, mais une senior qui l'aide à encadrer les juniors, qui l'aide à améliorer les process internes du cabinet, enfin, qui l'aide vraiment sur l'aspect technique, opérationnel, gestion, enfin, l'aspect sortir le travail pour les clients, enfin, manager, enfin, vraiment faire en sorte que les livrables qui sortent pour les clients soient de qualité. Donc beaucoup plus sur le fond et l'expertise et les process, mais les process, c'est intimement lié au fond, que sur les aspects commerciaux. Et franchement, moi, je m'en réjouis parce que je trouve que il faut de ça, en fait. Il faut des profils intégrateurs qui sont sur l'expertise technique plus que sur l'aspect du chiffre d'affaires, surtout quand on a une personne qui, elle, s'épanouit beaucoup dans l'aspect commercial de son activité. Et il y a un autre cabinet qui nous avait sollicité là-dessus et voilà, je crois pas qu'ils aient trouvé ce profil-là et je trouve que c'est est-ce que c'était, je sais pas, est-ce que c'était pas assez bien présenté, est-ce qu'il y avait, je pense qu'il y avait probablement un petit, ça bloquait au niveau de la rétrocession, des aspects plus financiers du deal, mais je pense que c'est des postes qui ont vocation à se développer quand même. Bon, ça fait beaucoup trop de temps que je vous parle. Je voulais d'abord aborder ce sujet du mythe de. Enfin, je ne sais pas si c'est le mythe de l'appel d'air, mais en tout cas, dire que même si je sais que je contribue à cette dynamique globale entrepreneuriale, j'ai reçu assez de messages de personnes qui m'ont dit si je m'installe, c'est parce que. C'est parce que tu m'as aidé à prendre confiance en ce projet, à me rendre compte que c'était possible, que plein d'avocats l'avaient fait, que moi aussi je peux le faire. Et tous ces récits, tous ces témoignages, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a donné envie de m'installer. Et donc merci et tout machin. Et moi, je suis à la fois hyper touchée et enfin, je suis trop contente d'inspirer confiance et de donner confiance et tout machin. Mais je suis aussi, je suis aussi. Je me sens aussi responsable de diffuser une autre parole qui est peut-être moins bisounours, qui est peut-être moins juste tout va bien dans le meilleur des mondes et tout va bien se passer et vous allez voir, vous allez vous installer et tout va bien se passer. Et de rétablir avec un message qui est aussi un message attention. L'installation, ça ne se passe pas toujours nécessairement bien. Il faut être préparé mentalement au fait que oui, potentiellement il y aura un appel d'air, mais aussi potentiellement il n'y en aura pas. Où cet appel d'air ne sera pas suffisant pour vraiment tenir votre installation, que donc au démarrage vous allez être forcé, enfin si c'est votre cas et ça peut l'être, ce sera un moment où vous vous sentirez vulnérable, où ce sera dur psychologiquement, psychiquement, ce sera difficile. Ça va vraiment vous challenger sur votre confiance en vous. Il va falloir que vous sortiez les rames pour aller chercher des clients. Sortir les rames pour aller chercher des clients, encore plus quand on n'a jamais fait ça et que c'est pas un truc pour lequel on a trop d'appétence et qu'on ne s'est jamais projeté comme étant commercial et tout, bah, ça peut être vraiment difficile. Donc ayez ça en tête. Ayez en tête qu'à partir du moment où vous vous installez, vous êtes entrepreneur et donc vous devez composer avec tous les aspects de l'entrepreneuriat et l'aspect principal de l'entrepreneuriat, c'est le risque. Et qui dit risque dit incertitude. Et ça fait vraiment intrinsèquement partie du délire. Et c'est pour ça que, bah voilà, c'est comme en finance, hein. Plus les risques sont hauts, plus les perspectives de rendement sont hautes. Mais ça veut aussi dire qu'on peut tout perdre. Bah c'est exactement pareil quand on s'installe. Vous prenez un gros risque, ça peut payer big time dans le sens où, bah, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez effectivement avoir une génération de revenus qui n'a rien à voir avec celle que vous pourrez atteindre en étant stricto sensu collaborateur. Mais par contre, la contrepartie de ça, c'est le risque et donc le risque que effectivement ces revenus ils soient difficiles à générer ou en tout cas c'est le risque inverse en fait. Donc il faut être préparé. Sachez que dans cette incertitude, il y a l'incertitude de quelle est la meilleure stratégie d'une part, et donc parmi une myriade de stratégies possibles, il faut en choisir une dans l'incertitude. Et qu'ensuite, une fois cette stratégie choisie, vous avez de l'incertitude sur combien de temps est-ce qu'elle va mettre à payer et voilà. Et quels sont les combien d'améliorations de cette stratégie vous allez devoir mettre en place pour en voir des résultats, et que ça aussi, il faut l'encaisser, et c'est pas évident. Pour anticiper toutes ces difficultés-là, voilà, ayez une trésorerie saine, voire de l'argent épargné pour vous permettre de tenir pendant une période où potentiellement vous n'aurez pas de revenus. Si possible, attention au voilà. Et sinon, potentiellement, soyez prêt à vous dire que bah, peut-être que vous allez retrouver une collaboration juste le temps de. Si jamais votre installation a été un peu précipitée par un événement ou cocasse, bah, peut-être qu'en fait, il vous faut encore une collaboration, juste le temps de vous constituer ce matelas financier qui va vous permettre de vous installer. Voilà. Et évidemment, le mieux, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Et prévenir, ça peut être, bien évidemment, si vous n'êtes pas dans une disposition où, dès le démarrage, vous êtes dans une logique active de développement de clientèle qui vous permettra bah, de constituer tout de suite de toute façon, d'avoir une clientèle le jour où vous vous installez. Au moins de planter des graines qui font que même si quand vous vous installez, vous n'avez pas vraiment enclenché, été très, enfin voilà, déjà une clientèle importante, au moins vous avez planté des graines par votre visibilité, voilà, un actif de développement, le réseau, votre visibilité, votre compte LinkedIn, votre blog, votre référencement naturel ou quoi au caisse. En tout cas, vous aurez déjà planté des graines qui vous permettront de vous installer avec une base qui favorisera le fait que cet appel d'air se fasse. Voilà, c'était en gros, en synthèse ça. Bon, c'est vrai que ce qui a pris du temps aussi, c'était les allers-retours au tout démarrage sur les retours de lecture du précédent épisode. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà. Ah oui, laissez un. J'aurais dû le dire avant, je suis nulle. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, vous entendez, j'ai plus de voix. Il est 20h51, bon, ça vous regarde pas, mais juste, voilà, ça demande du travail, ce podcast. Et je serais, juste laisser un avis 5 étoiles, franchement, les mecs. Voilà, c'est important. J'ai dit que je tirais au sort une personne qui a fait ce travail-là. Et roulement de tambour, le grand gagnant de cette de ce tirage au sort s'appelle Alice Poussier. Alice Poussier, merci beaucoup. Qui gagne donc une formation, ma formation sur les honoraires. Si vous voulez, je refais ça. Donc, nouveau concours. On va voir si ça fonctionne. Je le fais une deuxième fois et puis ensuite, je ferai un point sur si vraiment c'est rentable, cette histoire. Pour participer à ce concours, globalement, vous allez sur Apple Podcast, sur votre application. Vous laissez des étoiles, 5 de préférence, et un avis, un commentaire pour dire à quel point ce podcast est formidable. Et vous pouvez aussi participer sur Spotify en mettant 5 étoiles sur Spotify. Le seul truc, c'est que pour que je sois informée du fait que ça a fonctionné, enfin que vous l'avez fait, que vous avez participé en laissant un avis, il faut que vous m'envoyiez une capture écran de vos 5 étoiles laissées sur Spotify. Et vous m'envoyez ça par email ou par LinkedIn ou par Instagram, bref, comme vous voulez. Et vous serez dans mon tirage au sort. Voilà. Donc, à vos étoiles, à vos avis, moi, ça me met du fuel pour continuer le podcast. Et voilà. Et merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et je ne sais pas si on peut le faire plusieurs fois, mais voilà. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas. Bien évidemment, vous pouvez partager vos réflexions avec moi par tous les canaux de communication possibles et inimaginables. J'essaierai de créer du dialogue autour de vos propres réflexions. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Encore une fois, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à bientôt. Ciao, ciao.